France Info.
France Info.
France Info, le 17-20, Bernard Thomasson.
L'été est souvent pour beaucoup d'entre nous un moment privilégié pour lire enfin les romans qu'on n'a pas eu le temps de dévorer durant l'année. Jusqu'à 19h30, plutôt qu'un seul auteur, j'ai invité pour vous les écrivains qui seront sur toutes les plages cet été, de Jean d'Ormesson à Sylvain Tesson, de Maëlys de Carangal à Daniel Salnave. Mais d'abord, Jean-Mathieu Pernin, dites-nous ce que vous allez amener dans vos valises.
Eh bien oui Bernard, puisqu'il est arrivé l'été. Ça
les
y est,
vacances. Hein,
bah oui, il pleut, il vente, le ciel est bas, les températures frôlent les 15 voire 17 degrés. On l'a échappé belle, hein. On aurait pu avoir un été pourri avec un soleil brûlant, des cocktails sur la plage, des nuits folles, l'horreur. Non, là c'est bien, on prend l'air 5 minutes en scaphandre, il pleut tellement que les villes ressemblent à des sites engloutis. On va se faire une fondue, une raclette, en fait des plats qu'on n'aurait pas aidé à manger en hiver car il fait trop chaud. Et puis on lit, hein, parce que quand il fait beau, on n'a pas forcément envie de lire. Et puis franchement, c'est déprimant de lire sur la plage, c'est même affreux parce que quand vous revenez de vos vacances, au bord de mer, vous prenez les transports en commun pour vous rendre à votre travail, vous ouvrez votre livre et là, des pages tombent, quelques grains de sable, et ça vous met un coup de déprime, pire que si votre maison avait été choisie pour être redécorée par Valérie Damido, c'est dire. Et pourtant, l'été, c'est là où on lit. Il y a toujours des discussions sur les livres qu'on va emporter. Oh, je vais prendre le dernier James Ellroy. Oh, moi, j'ai envie de dire le dernier Goncourt. Et toi, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un super livre où l'auteur se sert de canard pour évoquer la perspective du déclin de la société humaine face à l'ultralibéralisme triomphant. Le titre, vous savez, c'est le nom d'un personnage. À Picsou Magazine, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est une claque. Attendez, voilà déjà un premier conseil de lecture, hein, mais comme souvent les ouvrages les plus lus en période, ce sont les romans policiers. Voilà une chose étrange d'ailleurs. Pour se détendre, on lit des polars. C'est tout de même bizarre de se dire qu'on se détend en lisant des polars. On apprécie des récits peuplés de meurtres sordides, des détectives dépressifs, glauques scandinaves. Je ne sais pas si c'est très rassurant, quelqu'un vous dit eh, « Là, je suis en train de lire un truc avec un type qui massacre tout le monde avec un marteau et une hache, ça me détend. » Généralement suivi de « Tiens, cette fourmilière, je vais la noyer, ça me détend. » Ou encore suivi de « Si on faisait une promenade tous les deux dans cet endroit désert entouré de hauts précipices, j'emmène ma tronçonneuse, ça me détend. » Non, lire l'été, c'est autre chose que le reste de l'année. On s'allonge sur un transat, on laisse le vent décider de la page qu'on va lire et on se sent emporté dans un voyage, on devient spectateur de l'extraordinaire. C'est ça la lecture. Hein. Dans une époque où nombreux sont ceux à ne pas trouver leur place, la littérature vous remet au centre du jeu puisque c'est vous qui décidez d'ouvrir ou de fermer le livre. En fait, c'est une liberté folle auquel on ne pense pas toujours. Et puis comme c'est la dernière de cette émission pour cette année, Bernard, en grand lecteur, vous avez donné quelques livres à vos collaborateurs. Merci pour la biographie de Jean Ferrat et de, surtout de Nana Mouskouri, intitulée sobrement « La vie, c'est du Tarama ». Je vous en conseille un, moi, si vous le permettez. C'est publié au Seuil, ça parle de guerre et de famille, ça s'intitule « Un été sans alcool » et c'est signé Ah bah Bernard Thomasson,
vous êtes trop bon.
Même en vacances, vous voyez, c'est dur de décrocher. Hein.
C'est dur de décrocher, même pendant les vacances, mais vous l'avez lu déjà.
Oui.
Merci Jean-Mathieu Pernin. Que choisir pour l'été? Bien peut-être une reprise en poche, comme La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker, qui va continuer à cartonner. Côté grands espaces, je vous recommande quand même Bison de Patrick Grinville. Grinville à qui j'ai demandé ce que représente le bison pour un Indien.
Tout. C'est la vie, c'est son aliment, c'est son vêtement. Il naît dans une peau de bison, il va mourir...
De bison, pas de vison.
De bison, il va mourir dans un manteau de bison.
Ouais.
Et donc toute sa destinée est marquée par le bison.
Et il le mange.
Et par le troupeau de bison, oui. On suit les migrations du bison.
Combien d'Indiens vivaient en Amérique avant l'arrivée des Blancs? Vous le savez, ça c'est...
On sait à peu près quelques centaines de milliers d'Indiens.
L'image du cinéma reflète-t-elle la réalité sur ces Indiens?
Pas toujours, parce que c'est une image qui est un petit peu dénaturée par la vision blanche, par la vision américaine dominatrice. Donc on a des Indiens renégats, on a des Indiens qui ont fui les réserves et qui évidemment se révoltent contre les Blancs.
Patrick Grinville, votre livre raconte le peintre Georges Catlin et la manière dont il a peint les Indiens de différents peuples. Qui était Georges Catlin?
Georges Catlin, c'est un peintre mondain qui vit à Philadelphie et qui fait une carrière d'avocat, et qui est destiné, qui est marié, et qui est un bourgeois, au milieu des bourgeois. Et un beau jour, il a une espèce de vision, d'illumination, il a un grand emportement d'allégresse, et décide d'aller peindre les tribus de l'Ouest, d'aller peindre les Indiens, de faire 40 à 50 tribus d'Indiens.
Pourquoi? Il a une vision sur leur disparition, c'est ça?
Il y a plusieurs choses, oui. Il est hanté par la disparition des Indiens, parce que c'est un homme de l'Est, et il a vu les Indiens disparaître dans l'Est, et puis il a des souvenirs d'Indiens. Il a vu, on le dit toujours, qu'il a vu une délégation d'Indiens traverser Philadelphie, sa ville, et ces Indiens se rendraient à Washington, où ils allaient être trompés, et il est frappé, séduit par la beauté, l'éclat, l'aplomb de ces Indiens. Et puis il a des souvenirs indiens dans sa famille. Sa mère a été enlevée par les Indiens, elle a été très vite récupérée, mais la meilleure amie de sa mère a vécu 49 ans chez les Indiens. Et oui, il y a l'enlèvement qui est un grand thème indien.
Dans votre roman aussi,
dans mon roman aussi, c'est un grand thème, l'enlèvement. Et puis, alors il y a cette scène qui est vraiment fondamentale, c'est une scène primitive. Il va à la chasse aux daims, il tue un daim, il croit l'avoir tué, puis il y a un Indien qui se dresse, torse nu devant lui, et il n'a pas le temps d'avoir peur, l'Indien lui sourit, c'est l'Indien qui a tué le daim, l'Indien lui sourit, il est frappé par l'humanité de l'Indien. Et donc, voyez-vous, c'est cette reconnaissance de l'humanité de l'Indien qu'on lui dépeignait par ailleurs comme quelqu'un d'agressif, de pervers, qui va déterminer sa vocation.
Comment travaillait-il ? Il amenait avec lui ses pinceaux, ses toiles,
son
bardin.
Oui, ça c'est très étonnant. Oui. Et d'abord, il partait sur un vapeur. Il partait de Saint-Louis, il remontait le Mississippi, il remontait le Missouri, et ensuite, il avait son cheval, il avait un cheval avec un bardin, il avait un guide ou deux guides, et il a emporté son chevalet, ses godets, ses tubes pour mettre les toiles. Il avait tout ça, et puis tout ce qu'il faut pour survivre. Hein. Il a traversé toutes ces tribus. Il est bien accueilli par les Comanches, il est bien accueilli par les Sioux. Ça se passe très bien. Il y a quelques petits incidents. Il doit négocier au début.
Ils aimaient se faire peindre, ça les
pas trop,
parce que voilà l'image de l'Indien.
Ils avaient peur d'être qu'on vole leur image, qu'on vole leur double. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que leur double soit l'objet d'une manipulation. Mais autrement, il est très bien accueilli. C'est tout à fait paradisiaque pour lui. Il circule librement, il va de tribu en tribu. Il y a des tribus en guerre, il les traverse. Il peint des guerriers en guerre, il peint la chasse aux bisons. Il est là comme témoin et comme peintre. Et les Indiens, très vite, s'aperçoivent que ça les grandit, ça les magnifie d'être peint.
Patrick Grainville, son livre « Bison » est paru au Seuil. Retrouvez les meilleurs livres pour votre été dans le numéro spécial du magazine « Lire » en partenariat avec France Info. Dans le quart d'heure à suivre, vous entendrez Sylvain Tesson, Jean Dormesson ou encore Daniel Salnave. Et nous parlerons d'abord d'un très beau livre, peut-être pas à amener sur des plages, mais à effeuiller durant tout l'été. C'est le manuscrit du « Voyage au bout de la nuit » de Céline. On se retrouve donc dans quelques instants après un retour à l'actualité.